histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Histoire locale. Le fonds du Musée des Beaux-Arts de Gaillac est constitué d'œuvres d'artistes essentiellement régionaux et parmi eux, Marie Bermond, peintre de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Bertrand de Viviès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le conservateur des musées de Gaillac. Qui était Marie Bermond ?
Alors Marie Bermond était une femme artiste albigeoise, effectivement, et qui a fait en fait sa carrière artistique à Paris, comme on l'évoquera tout à l'heure, mais qui a eu d'abord, bien entendu, une enfance albigeoise, hein, dans un milieu qui était celui d'une vieille famille qui, avant d'être albigeoise, venait de la région de Valence d'Albi. Son père, Paul-Louis Bermond, qui était bâtonnier, a été maire d'Albi, était conseiller général aussi de Valence, et était un magistrat tout à fait apprécié. Sa mère, Flavie Bermond, et ils ont eu plusieurs enfants, ils habitaient rue du Palais à Albi. Et Marie Bermond, donc s'appelait Marie-Gabrielle Henriette, en fait, qui est née en 1859, était la troisième fille de cette famille, qui en a compté donc quatre. Il y avait, les parents ont eu quatre enfants. Et ces gens, évidemment, avaient des liens et un rôle économique, un rôle dans la société albigeoise tout à fait bien installé. Hein. C'était un milieu traditionnel de la bourgeoisie albigeoise, plutôt catholique, ce qui est important d'évoquer parce que on verra peut-être un peu plus tard que la vie de Marie Bermond, elle était un peu différente de ce schéma préconçu et plus traditionnel. Et son père, Paul Bermond, avait un frère qui était président du tribunal civil de Toulouse, puis il sera ensuite à la cour d'appel, où existe d'ailleurs à Toulouse un très beau buste le représentant, sculpté par Bourdel. C'est une œuvre de jeunesse de Bourdel, parce que, et c'est là qu'on commence à évoquer la personnalité de celui qui sera pour beaucoup dans l'évolution de la carrière de Marie Bermond, Antoine Bourdel, qui était à 16 heures et encore jeune, déjà artiste, et qui sera ensuite le sculpteur confirmé qu'on connaît tous. Et ce lien d'ailleurs entre les Bermond et Antoine Bourdel permettra un développement intéressant à la carrière de Marie Bermond un peu plus tard. Et c'est certainement d'ailleurs grâce à ces liens entre Bermond et entre Marie Bermond et Antoine Bourdel que cette carrière de Marie Bermond se développera véritablement. Et Marie Bermond disait elle-même que c'était une fréquentation familiale qui l'attachait à Bourdel avant même le début de sa carrière artistique. Donc on sent qu'il y a là des liens familiaux étroits qui s'expliquent peut-être par le fait que Bourdel, avant d'être montalbanais, était albigeois et gaillacois en particulier. Il évoque dans ses souvenirs, Bourdel évoque dans ses souvenirs en particulier ses grands-parents albigeois. Il dit à un moment dans un texte, ma mère était née en pays albigeois d'un tisserand nommé Rey, établi à Gaillac, et ce bon grand-père était son grand-père Rey était un pêcheur à la ligne divin. Où qu'il fût, il prenait du poisson et chacune de ses pêches était miraculeuse. Passé maître dans l'art de tresser les minces cordelettes auxquelles on attache les hameçons, il en vendait à tout Gaillac pour la pêche. Doué d'une très jolie voix caressante, la mémoire peuplée de romances et d'airs populaires d'autrefois, le grand-père Rey chantait toujours et sa perpétuelle chanson n'empêchait pas les toiles qu'il tissait d'être les plus belles, les plus fines et les plus résistantes du pays. Mes bahuts regorgent encore de serviettes, de nappes et de draps de lit qui furent l'ouvrage de ses mains. Ma mère, quant à elle, était une belle et timide paysanne, sauvageonne, ayant quitté le métier improductif et pénible de tisserand. Son père était devenu surveillant des travaux du percement du chemin de fer. Il avait vécu avec les siens sur les rives abruptes de l'Aveyron et du Tarn, parmi les rochers et les châtaigniers, le long des Gaves. Puis il était venu s'installer à Montauban. Ma mère, alors âgée de 20 ans, y épousa mon père qui en avait 40. Voilà, donc ça c'est pour situer un peu les relations entre les Bermond et Marie Bourdel, Marie Bermond pardon et Antoine Bourdel, et les liens de Bourdel avec le pays albigeois et gaillacois.
Alors Marie Bermond se découvre des dons artistiques, des dons pour le dessin, pour la peinture, très jeune.
Oui, toute jeune, dès qu'elle est à l'école primaire, elle a fait ses études à Albi au couvent du Bon Sauveur, et à ce moment-là, ses parents habitaient rue de l'Hôtel de Ville, dans une maison où habitait également un autre artiste albigeois de cette époque-là qui s'appelait Arthur Corbière. Et Arthur Corbière, attendri par cette petite fille qu'il voyait tous les jours et qui s'intéressait beaucoup à la peinture et au dessin, qui devait venir dans son atelier voir ce qu'il faisait, lui a donné ses premières leçons de dessin. Et cet Arthur Corbière est un personnage intéressant. Il était à la fois peintre, imprimeur, libraire, relieur, et il avait transformé même une partie de son habitation, de la rue de l'Hôtel de Ville, en salle d'exposition pour ses œuvres et puis ensuite pour d'autres artistes. Donc c'était déjà là un peu un contact avec un milieu artistique où Marie Bermond, tout enfant, a dû voir passer des gens qui parlaient art, peinture, sculpture, architecture. Et elle a dû apprécier ses premiers travaux, d'ailleurs, de son maître Arthur Corbière, qui exposait régulièrement, qui envoyait des œuvres au salon, dans les premiers salons albigeois, puis dans des salons toulousains, notamment en 1899. Il avait mis au point à ce moment-là, d'ailleurs, un procédé un peu particulier, qui était un procédé de pyroteinture et de pyrogravure, qui avait obtenu un certain succès et qui lui permettront d'obtenir notamment quelques médailles au salon de 1905 à Toulouse.
Alors Marie Bermond, quelques années plus tard, donc, on la retrouve à Paris. Elle fait partie du cercle des amis intimes de Bourdelle et de Rodin. Comment est-elle arrivée à Paris ? Grâce à Bourdelle, justement ?
Eh bien, oui, donc d'abord, certainement, déjà bien dégrossi, si je puis me permettre cette expression, par Arthur Corbière. Celui-ci, qui a reconnu un talent certain chez son élève, l'a évidemment encouragé à partir pour Paris, parce qu'à la fin du 19e siècle, on ne pouvait pas vraiment faire de carrière artistique en dehors de Paris. Et il fallait donc y aller. Alors, on était dans les années 1880, ça n'était pas évident pour une jeune fille d'un milieu conservateur, traditionnel, et une fille donc a fortiori de partir ainsi. Ce que l'on sait, en tout cas, je ne sais pas si ça s'est bien passé, si ses parents étaient très favorables à ce départ, mais a priori, ils devaient être assez libéraux, parce que avant même de partir donc pour Paris, on sait que Marie Bermond a fait un premier voyage à l'étranger, seul ou avec des amis, je ne sais pas, mais ce voyage était un voyage un peu lointain, puisqu'il s'agissait de la Tunisie comme destination, ce qui n'était là aussi pas très banal dans les années 1880, et ce voyage a été très important pour elle, parce qu'elle l'a écrit plus tard, c'est le voyage qui lui a révélé la couleur. La couleur du midi, bien sûr, de la couleur écrasante du soleil tunisien. Et ces couleurs, Marie Bermond y a toujours été sensible. D'abord donc celle de la Tunisie, mais plus tard, elle a fait des séjours au Canet, à Sanary, aux îles Baléares. Et toujours, elle a été très attirée par l'atmosphère de ces pays et par le soleil et par les couleurs qu'on y trouvait, avant, bien sûr, d'être attirée par l'Inde plus lointaine dont on parlera tout à l'heure. Alors, après ces premiers voyages sous le soleil de Tunisie et des soleils de la Méditerranée, elle arrive donc à Paris et elle s'inscrit pour suivre les cours de l'enseignement de l'Académie Julian, qui était un cours très, très prisé à ce moment-là, où sont passés énormément d'artistes à la fin du 19e siècle. Et elle y rencontre différents maîtres et elle suivra aussi des cours auprès de Benjamin Constant, en particulier, qui a dû apprécier l'intérêt que montrait Marie Bermond pour la peinture. Il avait lui-même d'ailleurs été élève aux Beaux-Arts de Toulouse, il avait peut-être des liens aussi par ce biais-là.
Bertrand de Viviez, donc Marie Bermond est à Paris. Donc, qu'est-ce qu'elle peint comme elle peint des paysages, elle peint des portraits.
Alors, elle a été attirée très tôt par l'art du portrait, qui était un art important et à la mode aussi dans les milieux bourgeois de la fin du 19e siècle. Et ce que l'on connaît d'elle, effectivement, de cette période-là, ce sont des portraits. Ce sont de beaux portraits, en général au pastel, avec une belle technique très, 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 très fine. avec des tons très délicats, qui la font beaucoup apprécier et qui ont dû certainement s'affiner après son passage dans l'atelier d'Eugène Carrière, qu'elle a fréquenté pendant quelques années très, 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 très tôt, dès qu'elle s'est installée à Paris. Et c'est peut-être d'ailleurs par cet intermédiaire aussi qu'elle a fréquenté plus assidûment l'atelier de Bourdelle, de son ami et de son vieil ami Bourdelle. Et un critique de l'époque, Tristan Klingsor, qui était le grand critique de l'art à Paris dans les années 1880, rappelle dans un texte qu'effectivement, de toute façon, son véritable maître avait été le sculpteur Bourdelle. Et on verra que toute sa vie, il lui donna des conseils, l'encouragea, et ils ont d'ailleurs échangé une magnifique correspondance pendant toute leur vie.
Et dont vous avez des traces ?
Dont on a des traces, parce qu'elles sont heureusement conservées au musée Bourdelle à Paris, et qu'on a eu la chance de pouvoir les consulter et les publier à l'occasion de l'exposition Marie Bermond qu'on avait réalisée en 1996 au musée des Beaux-Arts de Gaillac. Et dans cette correspondance, Bourdelle lui écrit toujours en mettant « très cher ami et grand artiste ». Donc on voit combien il avait de l'amitié, de l'affection et de l'admiration aussi pour son travail. D'ailleurs, c'était une amitié, une admiration tout à fait mutuelle.
Vous parliez de beaux portraits au pastel. Donc, on peut voir au musée de Toulouse-Lautrec à Albi un portrait de Madame Jean Jaurès au pastel et voilà. Qui est actuellement dans l'exposition aux Moulins albigeois.
Voilà, tout à fait, qui est une bonne illustration de ce qu'elle faisait dans ces années-là et qui est aussi caractéristique du milieu qu'elle fréquentait à ce moment-là parce que, effectivement, très tôt, Marie Bermond s'est révélée avoir un caractère très indépendant et assez différent certainement de celui de sa propre famille. Et elle était très ouverte aux idées nouvelles, tant en philosophie qu'en art, qu'en littérature et qu'en politique. Et un de ses cousins, notamment, Dispens de Florent, qui était un Toulousain, qui était lui-même très lancé dans les milieux d'avant-garde politique de l'époque et qu'elle fréquentait à Paris, eh bien, était dans cette mouvance-là. Donc ses rapports avec les Jaurès illustrent bien un peu aussi cet attrait pour des idées philosophiques et politiques. Et donc elle a réalisé ce très beau portrait de Madame Jaurès, oui, qui est un bon exemple, qui est toujours présenté au musée de Toulouse-Lautrec et qui en ce moment est à l'exposition de la moitié à Moulins-Albigeois.
Alors dans les années 1908, je pense, Bourdelle quitte Rodin. Il s'expatrie, il va poursuivre une carrière européenne et c'est peut-être à ce moment-là que Marie Bermond, elle, se tourne vers la philosophie et prépare un voyage en Inde.
Oui, mais avant, effectivement, grâce à Bourdelle, elle avait rencontré beaucoup d'artistes importants de cette période-là, et notamment Rodin. Notamment Rodin, parce que dès que Bourdelle a travaillé avec Rodin, eh bien, il a présenté Marie Bermond à Rodin.
Et là aussi, vous avez des traces de leur amitié.
On a des traces de leur amitié, grâce à des correspondances en particulier. Vous savez que Rodin était un grand amateur de femmes, de toute façon, qu'il aimait beaucoup l'art, et donc Marie Bermond avait tout ce qu'il fallait pour plaire à Rodin. Et on a aussi des traces, d'ailleurs, de cette relation d'amitié et d'admiration mutuelle, d'ailleurs, à travers la correspondance, mais aussi à travers les photographies. Et c'est ainsi que, par exemple, on a la trace de la photographie du fameux banquet de Vélizy, qui avait été offert dans les toutes premières années du XXe siècle, par Bourdelle, et on voit là une quarantaine de personnalités du monde de l'art, de la philosophie, de la littérature à Paris, et de Robert de Montesquieu à Isadora Duncan, eh bien on y voit bien entendu Bourdelle, Rodin et Marie Bermond qui est là. Et dans le petit cénacle d'ailleurs des gens qui sont autour de Bourdelle pour son mariage en sus de Rodin, eh bien on voit également Marie Bermond qui a une physionomie assez caractéristique parce que c'était une femme très grande, très charpentée et qui avait toujours de grands chapeaux avec des plumes, avec des oiseaux comme ça se faisait beaucoup à la belle époque.
Quelqu'un de très original. Quoi.
Quelqu'un de très original et puis assez élégant et qui marquait par sa physionomie, son attitude et puis son franc-parler et puis sa fréquentation des artistes. Enfin, c'était quand même quelqu'un d'assez particulier. Et cet aspect un peu caractéristique est aussi remarqué par les artistes de son époque. Et dans les correspondances justement de Bourdelle, on voit très très souvent Marie Bermond caricaturée à l'occasion d'épisodes qui ont trait aux diatribes quand il y avait des polémiques sur les salons et les artistes qui exposaient, etc. On voit par exemple Marie Bermond en train de s'envoler malgré son aspect un peu lourd et avec Tolstoï, Rodin, enfin des tas de gens de cette époque-là. Et Bourdelle s'amusait chaque fois à faire des caricatures caricature de Marie Bermond, qui était assez amusante et qu'elle appréciait beaucoup, ce qui montre aussi cette, à travers cette taquinerie un peu toute l'amitié qui reliait tous ces gens-là. Et Bourdel, grâce encore une fois à cette amitié avec Marie Bermond, est venu plusieurs fois dans l'Albigeois. Et il avait d'ailleurs aussi, en plus de ses attaches familiales qu'on évoquait tout à l'heure, des attaches avec son praticien qui était Gaston Toussaint, qui était originaire de Castres et qui toute sa vie travaillera avec lui et qui sera un excellent sculpteur. Et puis ensuite, il y aura l'amitié avec Rodin qu'on évoquait à l'instant, les premiers salons de Marie Bermond, etc. Et puis effectivement, le fait que malgré un succès certain de Marie Bermond, des comptes rendus dans la presse qui étaient tout à fait élogieux, parce que elle a exposé notamment dans les galeries chez Bing, aux galeries de l'Art Nouveau, avec un catalogue préfacé par Rodin et Bourdel en 1902, ce qui était quand même tout à fait remarquable. Malgré cela, et malgré d'excellents articles de presse, dans la presse française d'ailleurs et étrangère, notamment aux États-Unis où elle avait beaucoup de clientèle, on appréciait beaucoup son art, eh bien, elle inspirait certainement à autre chose, et elle inspirait à autre chose, et dans ces années-là, eh bien, elle a eu envie, effectivement, de changer d'horizon et d'imaginer de voyager et aspirer effectivement par des intérêts vers certaines philosophies orientales. Elle a eu envie de partir en Inde.
Toujours sur les ondes de Radio Albigès et vous écoutez l'émission Histoire locale. Mon invité aujourd'hui est Bertrand de Viviès. Bertrand de Viviès, donc Marie Bermond, qui a un succès assez important en France, décide donc de partir en Inde. Et là-bas, donc, elle va découvrir la théosophie. Alors, qu'est-ce que la théosophie ?
Voilà, alors la théosophie, c'est une philosophie qui venait de naître à l'époque où Marie Bermond commence à s'y intéresser, depuis peu de temps.
Peut-être préciser en quelle année à peu près voilà, elle est partie en Inde.
Là, eh bien, elle a séjourné en Inde de 1911 à 1913, et elle doit faire la connaissance de la théosophie dans les années 1900 déjà, à mon avis. Et on doit cette nouvelle philosophie à Hélène Blavatsky, qui à New York, dans ces années-là, avait convaincu certains adeptes de certains de ses pouvoirs qu'elle disait supranormaux, à travers lesquels elle prétendait rencontrer secrètement les fameux Mahatmas hindous et qui étaient détenteurs de la seule sagesse et qui la lui communiquaient. Et elle a donc fondé cette société de théosophie à la fin du 19e siècle. Et elle a tout de suite fixé le siège de cette nouvelle philosophie en Inde, à Adyar. Et c'est Annie Besant qui a poursuivi son œuvre et qui, en 1908, donc, a présenté aux loges qui étaient déjà constituées de ces théosophes, celui qu'on considérait comme le Christ réincarné, qui était un jeune hindou de 13 ans à ce moment-là, et qui s'appelait Krishnamurti. Et Krishnamurti était à l'époque, enfin, effectivement très jeune, mais il se révélera adulte comme maîtrisant parfaitement une œuvre philosophique tout à fait personnelle, qui aura une grande influence sur le monde de l'art et des idées de cette période-là. C'est une doctrine assez complexe qui est fondée en fait sur un principe de réincarnation et en la conviction, qu'une hiérarchie occulte gouverne le monde contre laquelle il faut évidemment lutter. Alors, ce Krishnamurti, c'est un personnage très emblématique, très très beau, tout à fait charismatique, qui a beaucoup impressionné par son allure, par sa prestance, par la profondeur de ses idées, beaucoup de gens dans les milieux occidentaux de cette période-là. Et donc, Marie Bermond a eu très envie de découvrir à la fois l'Inde, parce que elle connaissait en particulier le peintre Albert Besnard, et qui avait été en Inde pendant cette période-là. L'Inde était à ce moment-là sous la domination anglaise, et il y avait là-bas une bourgeoisie anglaise très riche, et qui était aussi très à même de pouvoir éventuellement lui commander des tableaux, hein. Et elle pouvait peut-être, elle croyait en tout cas trouver là un débouché intéressant à son travail, tout en menant cette quête philosophique. Donc, pour partir en Inde, ça n'était pas si évident, il lui fallait de l'argent, donc elle a organisé une grande exposition de vente de ses toiles. Elle y a été aidée par Rodin, d'ailleurs, et avec cet argent, elle a pu avoir constitué quelques économies et partir en 1911. Et d'ailleurs, Rodin, à l'occasion de cette exposition, lui a acheté un de ses tableaux, qui est La femme au miroir, et qui existe toujours encore dans les collections du Musée Rodin à Paris.
Est-ce qu'on sait si à cette époque-là, elle avait gardé des contacts avec sa famille en Albigeois ?
Malheureusement, on n'a pas retrouvé de correspondance entre sa famille et elle pendant cette période-là, donc on ne sait pas du tout quelles étaient ses relations. On sait simplement qu'elle avait effectivement des relations avec ses cousins installés à Paris, les Dispens de Florent, que j'évoquais tout à l'heure, mais avec sa famille proche, albigeoise, on n'en a pas trouvé de traces précises, malheureusement.
Alors elle va rester plusieurs années en Inde ?
Elle va rester donc de 1911 à 1913 en Inde. Elle va passer 3 ans, pendant lesquels, non seulement elle va se former à la théosophie, bien entendu, mais elle va voyager. Elle va voyager, c'est un personnage très curieux, et elle va voyager dans l'Himalaya, elle va voyager sur le Gange, elle va voyager au Cachemire, avec une de ses amies, qu'elle rencontre là-bas, qui s'appelait Maria Cruz. Et ce qui est très intéressant, c'est que elle va, pendant tous ses voyages, prendre énormément de notes, faire des croquis, garder des souvenirs, qu'elle publiera régulièrement dans une publication qui s'appelait Lettres de l'Inde, qui était une publication théosophique, et où elle nous décrit donc tous ses trajets, toutes ses aventures, et la manière dont elle a appréhendé ce nouveau pays et l'admiration qu'elle a portée aux couleurs de l'Inde. Elle dit d'ailleurs dans un de ses textes en définir leurs couleurs tellement elles sont miroitantes et très difficiles. Quand on croit que c'est du vert, c'est du bleu ou du jaune, mais des verts et des jaunes qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc inqualifiables. Et elle était très sensible à ces couleurs extraordinaires et ces couchers de soleil en particulier qu'elle vous trouvait là-bas.
Donc elle rapporte en France beaucoup de dessins, beaucoup de peintures aussi.
Oui, et puis elle doit en vendre aussi sur place. Mais on sent très bien que ça n'est peut-être pas son but principal et que là-bas, elle est de plus en plus happée par cette recherche intérieure et philosophique, par la théosophie, et qu'elle délaisse peu à peu son art en fait. On a l'impression, alors peut-être qu'elle a eu certainement même quelques commandes de la société anglaise sur place, mais bon, on sent qu'elle est plus attirée par cette recherche théosophique, puisque effectivement, elle va rentrer en France au moment de la guerre de 14-18, ce qui sera une période très difficile pour elle, également pour reprendre sa vie d'artiste, donc elle préfère carrément laisser tomber ses pinceaux, les abandonner pendant quelques années pour se plonger dans la société de théosophie dans laquelle elle aura un rôle de plus en plus important.
Et ensuite, donc, sa carrière va continuer quand même. Elle va continuer à peindre et à dessiner quand elle sera de retour en France, oui.
Oui, dans la deuxième partie, après 1925, oui. Mais de 1914 à 1925, elle se consacre entièrement à la théosophie. C'est d'abord la guerre de 14, donc elle va vouloir créer ce qu'elle appelait l'œuvre du front, dans laquelle la théosophie devait participer à l'affermissement moral des soldats. Donc ça, c'est un rôle très important. Elle crée des bibliothèques tournantes d'ouvrages de théosophie pour les soldats du front dans les tranchées. Elle y publie d'ailleurs elle-même plusieurs articles. Et elle va publier aussi une revue qui s'appelait Kuroshchetra. C'est un nom qui nous paraît un peu difficile, mais qui évoque en fait un poème hindou qui est en fait une évocation mythique d'une lutte entre le bien et le mal, dont elle va publier plusieurs numéros. Et en même temps, et pendant la guerre, elle va, de retour en France, fonder un cercle de théosophie à Toulouse, parce qu'il y avait déjà un cercle bien établi à Paris, mais elle va en fonder un à Toulouse, qui s'appellera le cercle Giordano Bruno, et elle en est d'ailleurs la présidente d'honneur. et elle continue à aider toujours les soldats du front en créant aussi une œuvre où des volontaires devenaient marraines, théosophes pour des soldats néophytes sur le front pendant la guerre pour maintenir toujours le moral des troupes du combat.
Alors il nous reste peu de temps là avant la fin de l'émission. Vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots comment s'est terminée sa carrière, quelle sorte de peinture on peut voir d'elle de cette période-là.
Bien sûr, alors après son expérience hindoue et puis la guerre de 14 et son implication dans la théosophie, elle revient à la peinture de 1925 à 1940. Et là, elle aura un art tout à fait différent de ses premières toiles. Elle va peindre tout à fait dans une veine expressionniste. Elle fera des quantités notamment d'essais de visage. Ce qui était fondamental pour elle, c'était vraiment de rendre compte de la psychologie des gens qu'elle portraiturait. Et elle écrit notamment dans un texte une chose de tout à fait claire. Ce n'est pas en contournant un œil, une bouche, un nez que l'on peut exprimer le caractère d'un visage, ni sa véritable humanité. On ne doit pas chercher à reproduire un œil, mais un regard, une bouche, mais une douleur, ou un sourire, la structure d'un corps ou d'un visage que l'étude a révélé, mais l'apparition de la vie. Donc, ce sera toujours ce qu'elle essaiera de faire. Elle fera des quantités de portraits avec un dessin tout à fait automatique qui va beaucoup impressionner Elifor, le grand historien d'art de cette époque-là, qui l'incitera d'ailleurs à publier ses dessins, ce qu'elle fera avec une préface d'Elifor, et puis elle exposera à Toulouse à plusieurs reprises et finalement terminera sa carrière assez seule et isolée. Elle revient à Albi dans les années 40 et elle décédera dans un dispensaire albigeois en mai 41, à peu près oubliée malheureusement de tout le monde, malgré l'exposition au musée Toulouse-Lautrec qui lui a été consacrée en 1942, mais ça n'était pas le meilleur moment peut-être pour refaire parler d'une artiste comme celle-là.
Alors en conclusion, on va peut-être dire que si on veut découvrir les œuvres de Marie Bermond, vous avez salle qui lui est consacrée au musée des Beaux-Arts de Gaillac.
Tout à fait, il y a une salle entière qui lui est consacrée et puis il y a également des œuvres en permanence qui sont présentées dans la galerie d'art moderne du musée Toulouse-Lautrec et puis il y a quelques œuvres dans des musées français mais qui ne sont pas toujours exposées en permanence, mais il existe en tout cas un catalogue qui permet de retracer cette vie artistique et ses rapports avec Bourdelle qu'on peut toujours se procurer au musée des Beaux-Arts de Gaillac.
Merci Bertrand de Viviès, merci à Maïa la technique. Au revoir et à bientôt sur les ondes de Radio Albigès.
Merci, au revoir.